Merci Martine, je vais l'exposer. Alors, avant de donner la parole, quelques remarques à toutes les deux. Anne-Marie, j'ai bien noté votre formule selon laquelle nous baignons dans les problèmes moraux. Effectivement, et c'est par rapport à cela que tout cela se pose pour nous. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le fait que vous vous appuyez sur le texte de Lacan, du discours catholique, un texte que je connais assez mal et que dont vous tirez un grand parti. Je me souvenais simplement de l'avoir très rapidement parcouru et d'avoir noté cette formule forte de sa part, que Freud n'est pas un humaniste. Et je pense que vos deux exposés nous donnent bien l'illustration de cette formule très forte. Alors, dans votre travail, j'ai été très sensible à ce que vous dites de la protection de l'enfance que vous avez exercée, je pense, et en particulier concernant les adoptions. C'est effectivement un champ ou un domaine où ce que vous développez de l'articulation au fond des effets du discours de la science et d'une petite morale politiquement correcte qui essaye de savoir où est le bien est particulièrement nette, et c'était extrêmement clair. Merci. Mais alors, la question, peut-être, si question il y a, que je vous aurais posée, c'est, vous concluez avec Lacan, c'est intenable. Et vous dites, pour moi aussi, me too, comme on dit actuellement. Bon, alors, est-ce que c'est aussi...
je l'ai pas dit.
Alors, effectivement, dans le domaine où vous allez exercer, là, c'est tout à fait net. Et lorsque nous entendons des collègues venir nous parler de cela, on comprend. Est-ce que dans votre pratique privée, vous diriez les choses avec cette radicalité? Voilà cette question pour vous. Alors pour toi, Martine, très très bel exposé. Bon, j'ai noté une phrase qui me semble centrale, qui je crois mérite d'être tenue par nous tous, au centre de ton travail. La responsabilité suppose le devoir de faire passer une part de sa jouissance à un pouvoir dire son drame de sujet. Il me semble être une belle définition de cette position de la responsabilité dans l'analyse. Et alors effectivement, bon, je saisis en quoi tu illustres ça du cas d'Althusser. Moi d'Althusser, pour des raisons très personnelles, je ne peux pas parler. Des raisons d'une très ancienne amitié qui m'empêche un peu de commenter son histoire. Mais disons que je me demandais comment tu passais de notre vieille antienne, de notre jeunesse féministe, le privé et politique, à Althusser. Je me dis, ben oui, mais évidemment, il a tué sa femme. C'est peut-être pas le seul à en avoir aujourd'hui, mais j'ai trouvé en particulier que cette formule sur la responsabilité était dans le droit fil de ton travail précédent, au fond, une cohérence de ton parcours. Je pensais au livre sur le trauma. Je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose. Bon, alors, du point de vue de la fin de ton travail sur Althusser et le caporal Lorty, je pense qu'effectivement, bon, là, tu as orienté la question de la faute dans le cadre de personnalités que tu considères comme psychotiques. Bon. Alors, il me semble qu'une des pistes, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est un peu ma remarque et ma question, une des pistes pour continuer le travail de ce séminaire sur la question de la responsabilité et de la culpabilité, ce serait quand même d'avoir une approche différentielle de la question de la faute dans les différentes structures cliniques. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, la dimension de la faute chez l'obsessionnel, par exemple, dans l'hystérie, Ce n'est pas la même chose non plus dans les champs de la psychose, par exemple entre la position du mélancolique et celle du paranoïaque. Donc, je ne sais pas ce que tu pourrais dire là-dessus. Voilà mes remarques. Alors, est-ce que dans la salle, vous avez tout de suite des remarques à faire, ou est-ce que vous préférez intervenir toutes les deux?
Oui, je pense.
Anne?
Oui, qu'est-ce que je peux dire? Oui, j'ai lu le discours catholique, parce que vous pouvez imaginer que c'est une question qui me travaille depuis longtemps. Oui. Parce qu'en fait, ils étaient en 1960, donc c'était, ils étaient en cours d'élaboration, je pense, sur l'éthique. Et j'ai lu aussi une lettre envoyée par son frère à Jacques Séda, qui lui demandait de témoigner sur Jacques Lacan. Et il fait ressortir que son frère a toujours cherché du côté de la vérité et de l'inconscient en cherchant à être et ce que c'était qu'une personne, parce que la personne, c'est le terme, on va dire, chrétien. Et voilà. Et bon, alors. Et très. Très respectueux de religieux vis-à-vis de son frère psychanalyste. Alors Freud n'est pas un humaniste, au sens d'un homme qui pense que le bien existe, oui peut-être, je ne sais pas ce que pensent. Les humanistes avaient peut-être l'idée qu'un bien était possible, un progrès était possible, etc. Je pense que là Freud a quand même bien montré que ben non, pas de progrès véritable de l'humanité. Nous baignons dans les problèmes moraux, j'ai repris ça, c'est Lacan dit ça à un moment dans l'éthique, donc ça va bien tout, parce qu'effectivement, souvent on est un peu noyé, moi j'étais un peu noyé dans ma pratique, effectivement, en institution. Est-ce que c'est plus tenable ou moins tenable en intention qu'en extension quand même assez intenable, mais tenable quand même, enfin... Et Lacan, il dit que c'est pas... Il continue quand il dit que c'est intenable notre profession, et il dit parce que j'ai un surmoi comme tout le monde, et le surmoi, il nous incite peut-être du côté du pire, de la critique. Donc il y a une vigilance permanente qu'on se doit de maintenir, quoi. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on est en contrôle, c'est pour ça que... Voilà. Ce que je peux dire comme ça.
La seconde question, peut-être, on pourra la traiter, c'est très large, donc il faudra la traiter à une suite, effectivement, peut-être. La question de la faute dans les différentes structures cliniques, tout ce que je pourrais en dire rapidement comme ça, c'est que dans l'article de Lacan, il parle essentiellement des paranoïaques, à vrai dire. Bon, moi, j'ai un peu tiré autrement. Freud, dans Criminel par sentiment de culpabilité, il parle plutôt, sans doute, des crimes obsessionnels. Est-ce qu'il y a des crimes hystériques? Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des crimes hystériques? Alors, ça me rappelle, je ne sais pas. Peut-être pas assez. Enfin, je laisse un plein suspens, parce que c'est un travail. Alors, la première question, comment j'ai fait le lien, d'abord, il s'est fait tout seul. Moi, je fonctionne beaucoup par association, donc il s'est fait tout seul.
L'habitude,
en tout cas, il s'est fait un peu tout seul, très vite, mais à y réfléchir... Il y a à la fois une continuité à la fois temporelle et idéologique. Quand tout ça s'est passé, moi j'étais à la fois prise dans le politique de l'époque et le milieu du syrien. Mais au-delà de ça, qui est plutôt une question privée, je crois que ce qui fait le lien, c'est que quand j'ai relu le livre, l'avenir du volontaire pour ce séminaire-là, j'ai été extrêmement surprise parce qu'au départ, mon hypothèse n'était pas du tout celle-là. Au départ, mon hypothèse était que l'un comme l'autre, c'est-à-dire le gendre comme Althusser, avait essayé de modifier la loi pour qu'il y ait cette histoire de, comment on appelle ça, de non-lieu n'existe plus, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement différent, c'est-à-dire que le témoignage d'Althusser était complètement différent, c'était tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il essaye de faire de son privé, y compris du meurtre de sa femme, de le faire entrer dans la cité, enfin, le discours de la cité à travers son propre discours, parce que son discours était dans la cité, c'est-à-dire d'en faire un acte politique au sens de sa responsabilité, pas un acte politique au sens de... comment dire,
par modèle, quoi.
Par modèle, c'est pas tuer son conjoint pour faire un acte politique. C'est toute sa démarche d'introspection, de recherche avec son analyste, avec d'autres, avec ses amis, qui ont été en analyse. Tout ce travail de parole qui fait qu'il réintègre la cité. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait un lien, dans le fond, pas celui que je croyais, mais il y avait un lien. Voilà ce que je peux
en
dire.
Alors, vous avez peut-être eu le temps de réfléchir à vos questions maintenant.
Une petite phrase d'Oscar Wilde qui leur fut.
Françoise.
Juste pour.
Comédie des micros.
Bon, j'ai juste une petite phrase. Avec l'humour d'Oscar Wilde, il dit « Appuyez-vous sur vos principes fortement, ils finiront bien par céder. » C'est juste pour
l'apprendre.
Parce qu'il a parlé de... Anne a parlé de principes. Enfin, le temps que ça devient.
C'est sur la religion. Donc.
Ah, sur la religion.
Oui, oui. Et puis en dessous, le discours
de la religion.
C'est ça.
C'est
le triomphe de la religion. Il y avait la conférence de passe avant.
Voilà.
Comment?
C'est publié avec un autre.
Oui, avec la conférence de presse qui précède la troisième à Rome.
Oui.
Les deux textes sont publiés ensemble.
Vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le jugement particulier.
Oui.
Il y a cette notion que on va être moins, enfin, voir des choses, comprendre des choses qu'on ne comprenait pas jusqu'à maintenant.
Oui, alors ce que j'ai compris, c'est qu'il y a au dernier moment, je dirais ça comme ça, mais je me suis aperçu, je me suis lancé dans quelque chose qui me dépassait totalement. J'ai quoi creuser, mais ce que j'ai compris, c'était il y a un effet particulier du sujet qui tout d'un coup aurait un aperçu de ce qu'a été sa vie, ce qu'il a été comme personne, voilà, au moment où ça se détache, où il y a quelque chose qui quitte, où l'âme, l'objet petit a, parce que, enfin bon, où ça se dissocie. Voilà, quelque chose. Et c'est pas un jugement extérieur, c'est pas Dieu le Père qui dit voilà, c'est le sujet lui-même qui peut-être qui repère sa position, enfin, je sais pas comment dire ça, voilà. C'est ce que j'ai compris, mais sous réserve, voilà. C'est-à-dire qu'il est, si on est croyant, on doit imaginer qu'il est éclairé par l'esprit qui lui donne un aperçu sur ce qu'il a été comme personne. Moi, j'ai dit ça comme ça.
Merci.
Agnès.
Je pense à fait la question qui arrive, puisqu'il me semble que vous avez poursuivi après ce jugement particulier sur l'analyse est un jugement.
Oui.
Et moi, j'aimerais bien un peu plus de ça m'a sidéré comme formule, puisque vous dites Lacan rompt avec la morale du bien, mais pas avec le jugement. Et vous dites ça comme ça. L'analyse est un jugement, c'est-à-dire, comment vous l'entendez ? Est-ce que c'est l'analyse donne à l'analysant la possibilité de se juger ?
Ça doit modifier, enfin, ça a comme effet de modifier sa vue sur sa propre conduite, sur son désir, sur sa jouissance. Ça, je pense que ça, c'est... Je serais d'accord avec ça. Et ensuite, alors, le psychanalyste, s'il a une position éthique, c'est bien qu'il doit se poser la question de est-ce que sa façon de mener la cure répond à cette éthique.
Donc il y a le jugement du côté de l'analysant et le jugement
oui,
du côté
oui,
de l'analysant.
Oui, il me semble, oui. Il me semble.
Oui, je voulais poser une petite question à chacune. J'ai beaucoup apprécié vos exposés. Anne, je ne sais pas si je peux me permettre, mais bon, je vais le faire puisque je suis partie pour. Tu as fait un lapsus.
Oui, forcément.
Et je voulais t'interroger.
Pas exagérer.
Sur ton lapsus, parce que. La phrase telle qu'elle a été prononcée par toi résonne et je pense qu'on peut l'interroger, même si ça lit un lapsus. Donc, citant le livre de Freud de 1927, L'avenir d'une illusion, tu as dit « L'avenir est une illusion ». Donc, tu as affirmé « L'avenir est une illusion ». Alors, je pense que ça peut se soutenir, mais je voulais donc te demander de me dire un petit peu plus ce que tu en penses.
C'est pour ça que ça dure longtemps.
Je ne sais pas. Enfin, on pourrait effectivement le mettre en tension avec le titre. Donc, le titre de Freud, relu par Anne, on peut le mettre en tension avec le titre d'Althusser, cité par Martine. Alors, Martine, le privé et politique, je me demandais, 50 ans après, puisqu'on va fêter les 50 ans de mai 68 bientôt, avec cette altération, disons, de la distinction et des frontières entre le privé et le public, aujourd'hui, est-ce que ça ne modifie pas le sens de cette affirmation ? Est-ce que qu'en est-il aujourd'hui, alors que le privé n'est plus du tout à la même place par rapport au public ? Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui une telle chose ?
Est-ce que vous voulez répondre déjà ? Paulette ?
Oui, alors, un petit mot sur chaque contribution, merci. Je voulais rappeler que Lacan n'a pas renoncé à la notion de jugement dernier, puisqu'il dit que la perspective du jugement dernier est inéliminable chez un sujet parlant. Et donc, ce qu'il a essayé de faire, c'est, au fond, laïciser. Il a fait beaucoup cette opération de reprendre des positions chrétiennes et de les laïciser en quelque sorte. Et c'est quand même important, puisque si on parle de la responsabilité, on ne peut pas éliminer le jugement. Et par rapport à la question d'Agnès, au fond, je me disais, on n'analyse que des sujets responsables. S'il y en a qui ne sont pas, on ne les voit pas. On ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne les voit pas, on analyse. Et un sujet responsable est forcément un sujet qui est dans la dimension du jugement. Alors, évidemment, il y a des strates multiples. Le jugement sur soi, le jugement de l'autre, celui du surmoi, etc. Tout ça est intriqué. C'est pas simple. On peut pas dire le jugement. Enfin, jugement dernier, c'est qu'au fond, on n'arrive pas à s'empêcher à comptabiliser ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et on est dans la perspective de ce qui sera fait à la fin. Donc, c'est très difficile d'en sortir. Alors, du coup, je disais, d'accord, essayer de laïciser. Je me disais ceci, la responsabilité. Comment se fait-il que pour parler de la responsabilité, on ne parle que de la faute, du crime ou des impuissances? C'est une restriction énorme qui vient du christianisme. Et moi, ce point-là, je me pose cette question en ce moment. Qu'est-ce que c'est que penser laïquement? Qu'est-ce que c'est que penser hors des schémas qu'on a digérés plus ou moins? Vous savez, quand on vient aussi. Hein, mais, parce qu'au fond, partons de ceci, il y a des sujets qui refusent d'assumer leurs responsabilités, de leur réussite, de ce qu'ils ont fait de mieux, ça existe, hein, qui sont captés par l'idée que rien de ce qu'ils font ne peut valoir et qu'ils ne peuvent pas l'assumer. Donc la responsabilité, elle ne s'étend pas seulement à la faute, au péché, ça c'est chrétien.
Hein ? Oui, c'est l'univers morbide de
la faute. Oui, on pourrait dire l'univers morbide de la faute. Oui, oui, on pourrait reprendre ça. Bon, voilà, c'est quelques remarques. Et je trouve aussi, mais ça, c'est très difficile à manier, la notion de sentiment de culpabilité. Très difficile à manier. Parce que c'est souvent rusé le sentiment de culpabilité. Lacan a dit ça une fois dans une présentation de malade, c'est tellement vrai. Plus il se sent coupable et moins il veut être responsable de ce qu'il a fait. Ah, c'est souvent ça, c'est un masque, là. Le sentiment, je parle de culpabilité, hein. C'est pas la même chose que reconnaître une culpabilité, mais le sentiment de culpabilité, c'est très insaisissable. Rarement vraiment authentique, toujours suspect. Il y a toujours un point de suspicion à porter sur un sentiment de culpabilité trop présent. Enfin, c'est quelque chose. Ça suffit. Ah oui, moi j'aurais bien une question encore à Agnès. Je ne comprends pas comment vous pouvez être étonnée. On ne doit pas parler des mêmes choses avec les mêmes mots. C'est ça que je dis. C'est ça que je m'attends, en fait. Comment vous pouvez être étonné que l'on parle du jugement dans un ami?
C'est là. Mon étonnement est c'est sur la concision de la formule d'analyser d'un jugement.
Ah oui, d'accord.
C'est sur ça.
C'est sur le règlement.
Ok.
Prendre un sol et. Bon, ben Colette, tu dis la même chose que moi hein, sur la culpabilité. Hein. C'est exactement ce que je dis au départ. Hein. Et c'est la position de ce patient donc, que j'ai évoqué. Alors, sol, le privé et politique, est-ce que ça fait encore. Je pense que ça tient, mais c'est extrêmement marginal, c'est du 1 par 1. Et peut-être c'est aussi, après tout, pourquoi pas, chaque analysant, le privé devient politique à un moment ou à un autre, peut-être. Hein.
En tout cas, c'est une position éthique, mais qui est pas, qui publiquement n'est plus tenable. C'est, actuellement, le privé, il est public, et le public, il est économique. Alors, là, ça...
Mais c'est pas la même chose de poser privé et public, et privé et politique.
Ah non, non, c'est pas du tout la même chose. Je pense que le privé politique, actuellement, bien que j'ai trouvé cette carte postale il y a un mois, c'était dans un... dans une exposition émotive, quoi, je ne sais pas tout dire, ce n'était pas dans un bureau tabac.
Je crois que Lacan, il a raison, ça démarque la phrase qu'il a dit l'année d'avant, la conscience et la politique. Voilà, ils auraient dû avoir une mémoire vague d'avoir entendu ça, et c'est plus privé et politique. Moi, je trouve que c'est aussi valable que ça a été en 68. Parce que ce qui a changé, c'est évidemment ce qui passe au public, mais le privé, c'est pas ça. Le privé, c'est l'intime, c'est le sujet. Oui, c'est... Et donc, je sais pas si ça a changé, ça, à vrai dire, le fait de l'évolution. Peut-être. Enfin...
Oui, l'avenir est une illusion. Ben, enfin, je sais pas, je pense que c'est avoir l'idée que les lendemains qui chantent, ça c'est une illusion. C'est peut-être ça que j'avais. Voilà.
Ben oui, assumez votre lapsus.
Oui.
Très bien.
Oui, tout à fait. Oui, effectivement, le jugement est toujours à l'horizon. Alors, c'est par rapport à l'idéal, et que ça, c'est irréductible aussi, par l'idéal, je pense, chez tout être parlant. On a beau réduire les idéaux, faire chuter les identifications, etc., etc., il reste toujours quelque chose.
Enfin... Lacan ne place pas forcément le jugement par rapport à l'idéal. Non. Le jugement, c'est comptable. On fait les comptes, justement. Il l'a expliqué explicitement. Il l'a dit explicitement, hein, c'est pas moi qui interprète ça, là, sur ce point-là. Il y a une comptabilité chez le parlant, il y a une comptabilité à peu près tout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est capitaliste avant l'heure, mais faire les comptes, ça va avec le jugement dernier.
Justement, quand vous dites, ça m'intéresse beaucoup cette discussion que vous avez amenée sur le jugement dernier. Est-ce que cette laïcisation dont vous parlez, ne revient pas, si je suis l'exposé d'Anne, à faire que ce soit le jugement numéro 1 qui devienne le jugement numéro 2 ? Le jugement particulier, c'est-à-dire une sorte d'état des lieux d'un individu à un certain moment, qui serait cette laïcisation d'un jugement qui est dernier, qui alors lui est lourdement référé à un grand autre, plus qu'hyper consistant.
Ce qu'a dit ce premier jugement dernier, c'est quand même l'autre qui le souffle au sujet.
Il y a quelque chose de divin d'exclu.
Oui. Forcément.
Ouais. Donc,
disons qu'on pourrait le laïciser plus facilement que le second.
Oui. C'est sûr. Peut-être d'ailleurs, je ne sais pas de quel texte vient cette histoire des deux jugements derniers. Moi, j'ai jamais lu ça.
Ah, ben j'ai lu ça dans.
Oui, c'est de la théologie, je sais bien, mais je n'ai pas lu toute la théologie.
Non, mais
je cite ma référence.
Mais ça m'a échappé alors.
Non, mais elle n'a pas lu.
Je ne sais plus. Non, je n'ai pas dit, parce que je ne voulais pas alourdir à chaque fois, parce que c'est bourré de.
Un certain
Marjolidon, les fins dernières, qui est un pavé comme ça sur les fins dernières, donc il dit ceci, ça tout à fait.
Ah bon, c'est pas Saint Thomas, c'est pas les pères de l'Église.
Mais ça fait une synthèse de ça.
Parce que Lacan connaissait très bien les pères de l'Église, donc il a peut-être eu vent de cette affaire.
Oui, certainement.
C'est possible.
Et puis,
Agnès, vous avez depuis un long moment.
Je veux encore revenir peut-être sur le côté réducteur que
que j'ai perçu dans l'analyse est un jugement, peut-être parce que certains sujets viennent, parce qu'ils sont enfermés dans une modalité de jugement et que justement l'analyse va leur permettre
d'autre
voie. C'est ça que je veux dire. Certes, c'est.
Oui.
Prend la mesure de sa responsabilité, mais on ne peut pas réduire l'analyse à un jugement.
Non, mais c'est pas une réduction.
C'est ça qu'on
dit. Je pense que dans ce que là où il dit Lacan dans l'éthique, c'est pas une restriction. C'est on se doit, c'est même un devoir, je ne sais plus comment c'est dit. C'est impératif d'avoir un avis, enfin de se poser une question sur ce qu'on fait.
Un jugement par des voies associatives et...
Oui, mais c'est du côté de l'analyste.
Non, je crois de l'analysant aussi.
Oui, l'analysant aussi.
Oui. On ne pourrait pas dire massive, trop massive. En principe, quand les sujets arrivent, il y a des sujets qui succombent, en effet, c'est un jugement continu sur eux-mêmes, etc. C'est toujours des jugements tenus du point de vue de l'autre. Hein, c'est l'autre interne, c'est l'œil de l'autre qui les juge, etc. Et donc, évidemment, l'analyse a plutôt pour effet de défaire, d'alléger, de supprimer éventuellement, de faire partir l'œil de l'autre. Hein. Mais justement, ça lève ce type de jugement pour en instaurer un autre.
Voilà.
C'est-à-dire que le sujet, lui, responsable de ce qui, de ses différents symptômes, de ses bondés, de son désir, de sa jouissance, peu importe, responsable de lui-même au fond, il passe à un autre jugement. Donc on transforme le jugement, du surmoi, la pathologie du surmoi. On espère qu'on arrive à la transformer.
Tu utilisais Anne le mot de conversion, on pourrait l'utiliser là. Au moment où tu parlais de conversion. Oui.
Oui, mais c'est toujours un vocabulaire religieux. C'est complètement imprégné.
Est-ce qu'on peut penser que la laïcité, c'est ramener le sujet de sa comptabilité, de la comptabilité du jugement, à une position de critique par rapport à ses actes? C'est une question qui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en articulation entre le jugement et la position critique?
Qu'est-ce que c'est qu'un jugement qui ne se fait pas à partir d'un semblant, qui ne se fait pas à partir de l'autre et qui ne se fait pas non plus à partir d'un signifiant idéal quelconque?
Mais ça serait le premier jugement.
C'est difficile à saisir.
Ce serait ce premier jugement expliqué de manière théologique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'imaginaire.
On aimerait qu'il commence à avoir la mort. Ce jugement de responsabilité, parce que s'il arrive au dernier soupir, ça ne va pas beaucoup transformer la vie. Parce que la question est quand même posée par vos exposés, que l'éthique de la psychanalyse, bon, Lacan nous l'a. La tartiner très bien dans le séminaire d'éthique et tout au long avec des formules diverses, mais la question est posée dans vos exposés, qu'est-ce que cette éthique, la psychanalyse, change à la vie des sujets après l'analyse? Hein, c'est la question, comme dit Lacan, il saura se faire une conduite, le sujet. Mais il nous dit pas vraiment laquelle, puisque c'est après.
Il saura se faire une conduite avec la castration.
Oui. C'est la
sensualité.
Dans le pire ou le meilleur.
Mais c'est ce que tu as dit, parce que.
dans les deux questions.
Ce qui change, c'est peut-être qu'il n'a plus
de Carlos. Et Carlos.
Ce qui peut éventuellement changer, c'est est-ce que l'analyste a une vie privée ? C'est une question que Lacan pose. Ça dépend ce qu'on entend par privé.
C'est ce qui serait très politique, alors.
Si la conscience est politique, le privé politique. Enfin, c'est la question qui m'est venue. Je ne me souviens plus très bien ce que dit Lacan à ce sujet, mais il me semble qu'il parlait de la vie privée d'un analyste. À revoir.
Carlos ?
Sur la discussion sur le jugement, en fait, c'est vrai qu'on peut se référer au jugement avec les critères du bien, du mal, etc. Mais je pense qu'au fond, ce qu'il introduit, c'est justement qu'il y a un jugement qui est au-delà de la question du bien, du mal, disons, en fonction des critères, de, par exemple, de la religion, etc. Et donc, de ce point de vue, je voulais te demander si justement, chez Lacan, il n'y a pas un mode d'interprétation qui rend compte de cette question de l'analyse comme jugement, au sens de c'est ça, je ne vous le fais pas dire. Au fond, tous ces modes d'interprétation qui rend compte de cette thèse de moi, la vérité, je parle, en fait, au fond. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion de jugement. Au sens que c'est vrai parce qu'on le dit, parce qu'on le prononce. Mais voilà, c'est une question.
Quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire de jugement, j'ai pensé jugement d'affirmation, jugement d'existence. Puis bon, mais puis j'ai vu le
monde. Voilà. Et puis l'accord, on connaît bien la philosophie. Hein. Le jugement, c'est quand même Kant, le grand théoricien du jugement, et le jugement chez Kant, c'est complètement hors de la question morale. Le jugement, ça porte sur l'esthétique en particulier, pas seulement, mais... Donc, c'est sorti de la considération morale. Donc, il faudrait regarder aussi de près avec ça, mais enfin bon, ce serait une autre discussion.
C'est pour ça, c'est quand avec ça.
Oui. Il
dit très bien.
Bon, écoutez, merci à toutes les deux pour ces remarquables.